Clôture vendredi à Lubumbashi du premier atelier international sur la protection des grands singes organisé par la coordination des différents sanctuaires des protections des grands singes en Afrique. 18 pays du monde impliqués dans le programme de la protection des grands singes et qui ont des représentations en Afrique se sont réunis pendant 5 jours pour réfléchir sur la protection de cette espèce menacée de disparition principalement dans le Kivu. Au Katanga, cette espèce est visible seulement dans 2 domaines de chasse au nord de la province, des domaines qui ont été abandonnés pendant quelques années. Nous allons faire le point avec Jean Gandou. Jean Gandou, vous êtes avec nous, bonjour. Jean Gandou, vous êtes avec nous, vous êtes en ligne?
Bien sûr, mon nom, oui, bonjour.
Jean Gandou, en quoi a consisté le séminaire qui s'est tenu à Lubumbashi la semaine dernière en rapport avec la protection des grands singes?
Il faut dire, tout d'abord, cette rencontre a réuni une trentaine de participants venus d'une vingtaine de pays. Tous ces participants voulaient réfléchir sur comment protéger les grands singes qui sont en voie de disparition à cause notamment des combats qui se déroulent dans différentes zones où ces primates vivent, principalement dans les provinces de Kivu.
Est-ce que ces grands singes vivent également à Lubumbashi et où est-ce qu'on peut les voir dans la capitale du cuivre, Jean?
Selon les experts qui ont pris part dans ce séminaire, les grands singes n'habitent pas la province du Katanga. S'il y en a qui se retrouvent à Lubumbashi, c'est simplement par le biais du trafic illicite qu'opèrent certaines personnes. Et ce trafic s'établit entre les provinces du nord et sud Kivu et la ville de Lubumbashi. En outre, la viande de ces primates est vraiment prisée par d'autres personnes. Et ces animaux passent de la province du Kivu et sont transportés soit par avion, soit par train, soit par bateau, avant de gagner la capitale du cuivre. Et dans la plupart des cas, ceux qui les amènent le ventre ou les gardent chez eux. Et pourtant, ce sont des espèces qui sont protégées ou non.
Oui, alors Jean, si les grands singes ne vivent pas au Katanga, pourquoi avoir organisé ce séminaire à Lubumbashi?
Excellente question, Nounongo. D'abord, la ville de Lubumbashi a été choisie parce qu'en principe, cette rencontre devait avoir lieu dans l'Équivaux. Mais compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la RD Congo, les organisateurs ont jugé bon de le faire dans la capitale du pays. Ensuite, il fallait décourager les trafics de ce singe et leur détention illégale par les particuliers. Alors, pour ce faire, on écoute Franck Chantero de l'ONG Jack, entendez par là, jeunes animaux confisqués du Katanga. On écoute.
L'organisation devait se rendre au Kivu, mais compte tenu des événements, la sécurité est là-bas, donc ils ont choisi de le tenir à Lubumbashi. Notre combat, c'est depuis 3 ans qu'on le mène. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sensibilisées à ce qu'on fait, mais il reste encore beaucoup de gens à sensibiliser. Il faut vulgariser nos lois et c'est l'ignorance qui fait que de ce qui se passe. Parce que les gens ne sont pas contraires. Quand on leur dit que c'est interdit, ils le font.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre de Lubumbashi, Jean Gandou?
De ce séminaire, on peut tout simplement retenir que les primates sont des espèces protégées et il est interdit de les détenir des peurs de leur soi. Et l'ONG Jeunes Animaux Confisqués du Katanga a, au cours de ses assises, dit qu'elle a réussi à récupérer 19 primates à la suite de la campagne qu'elle a initiée depuis qu'elle est opérationnelle dans la province du Katanga.
Ce qui est une bonne nouvelle pour cette ONG, Jean Gandou, c'est bien de récupérer ces animaux, mais qu'est-ce qu'on en fait après?
Une fois récupérés, ces grands singes sont placés dans un sanctuaire avant qu'ils ne soient replacés dans leur milieu naturel. Pour ce faire, donc, écoutons les explications de Christophe Mahamba, qui est expert et chercheur au sanctuaire de Bonobo Kinshasa, qui était l'un des orateurs du séminaire de Lubumbashi.
Nous commençons par les réhabiliter parce que nous les recevons dans des conditions dramatiques. Vous avez vu vous-même les photos des jeunes chimpanzés qui arrivent au projet Jacques. Et c'est dans cet état que nous recevons également des bonobos en très sérieuse difficulté, malnutrition, bronchite, pneumonie, des diarrhées, déshydratation et très stressé. Donc on commence par les réhabiliter. Et la réhabilitation est psychologique et puis physique. Et puis quand ils sont totalement réhabilités, nous envisageons les retourner dans leur habitat naturel parce qu'un singe ne peut vivre que dans la nature, dans son habitat naturel. Et donc, ça, c'est vraiment notre mission et c'est ce que nous essayons de faire.
gens-là, nous venons d'apprendre des choses, que des singes doivent être réhabilités psychologiquement. Ça, c'est du nouveau, hein?
Absolument, non, non, oui. Et pour ce faire, je crois qu'il y a, il y a des gens qui sont là, pour les singes qui n'ont pas de parents. Il y a des gens qui sont là, qui donnent de biberons aux singes, qui les encadrent et tout et tout. Et parce qu'un singe qui est habitué à vivre en brousse, lorsqu'on l'enlève de la brousse, il faudra qu'il y ait quelqu'un à ses côtés pour pouvoir bien le dresser et pourquoi pas bien le tenir.
Jean Gandou, est-ce que la loi sur la protection des espèces est bien connue à Lubumbashi où vous vous trouvez?
En tout cas, cette loi est mal connue et les gens ne comprennent vraiment pas pourquoi, lorsqu'ils amènent un singe de la brousse, ils sont obligés de ne pas les garder avec eux. Cette réalité, nous en voyons, est malheureusement la même que celle qui est trouvée à travers toute la République, comme le confirme Christian Aramba.
Au départ, la loi n'était pas suffisamment vulgarisée parce que si vous trouvez quelqu'un avec un orphelin bonobo, on lui dit, on informe tout simplement que c'est illégal de détenir ça. Il dit, mais non, personne ne m'a dit que c'était interdit. Je dis, c'est interdit de le vendre. Il dit, personne. Et ces gens, ils m'ont résisté quand on voulait prendre ces animaux-là. Donc, nous avons trouvé que vraiment la loi n'était pas suffisamment vulgarisée et le travail que fait les sanctuaires en rapport avec la loi d'interdiction de circuler avec des animaux protégés, en fait, ça fait un rôle primordial dans toutes les institutions, en fait, ici, je vais dire les sanctuaires, qui vulgarisent ça pour que les gens puissent savoir que les animaux protégés ne peuvent pas les détenir par des tierces personnes et donc on est contre la loi si on les détient ou on l'achète ou on le vend.
Sangandou, il faut là dire qu'il faut vraiment sensibiliser davantage, parce que même ici à Kinshasa, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui ont des espèces protégées dans leur maison. Sangandou, organiser des conférences, c'est bien beau, mais est-ce que le message passe facilement auprès des Loussois?
L'impression que nous avions le jour de la clôture de ce séminaire était que la plupart des participants ont fait leur le message de protection de ces grands singes, surtout de la campagne menée par le responsable de l'ONG Jack, à en croire les propos que nous avons recueillis.
Monsieur Franck Chantreau et son épouse Roxane se battent pour la conservation des espèces animales. Ils ont un petit sanctuaire au jardin zoologique de Lubumbashi et ça ne peut que nous pousser à les encourager à aller de l'avant. Parce que nous sommes à l'heure du développement durable. Et quand on parle du développement durable, on parle des matières qui ne se puissent pas. Les gens s'intéressent aujourd'hui aux minéraux, mais ils oublient que la nature, ils oublient que cette nature peut rapporter beaucoup d'argent à l'État. Il y a aujourd'hui des pays qui ne vivent que du tourisme. Et si nous protégeons nos espèces d'animaux, je crois qu'on fera beaucoup de rentrées et cela nous permettra de nous imposer dans le monde de la globalisation en tant que pays soutenant réellement le développement durable.
Il faut apprécier et encourager l'ONG Jacques. Et je crois que les autorités du pays s'impliquent déjà. Vous avez vu vous-même la présence de tous ceux qui sont impliqués dans la protection des animaux, des espèces protégées, notamment l'armée, la police et les autorités politico-administratives. Donc c'est quelque chose qui nous encourage et qui démontre qu'il faut absolument garder notre biodiversité.
Le message est passé, j'ai compris, il ne faut pas tuer les voisins, ce sont des êtres, ils ont droit à la vie, ils ont droit à la protection, il faut les protéger.
C'était là des participants, le message est passé, ils ont déclaré. Et à Lubumbashi, où est-ce qu'on amène Jean Gandou ces singes une fois récupérés?
Ben, les responsables de l'ONG Jack ont un petit sanctuaire qui est entretenu au jardin zoologique de Lubumbashi. Et c'est là où ces primates sont momentanément gardés, en attendant qu'ils soient retournés dans leur lieu naturel de Mongol.
Merci Jean pour tous ces détails et bon week-end à Lubumbashi. Hein.
Merci président, au revoir.
C'était la retrouvaille d'Evoloco Lai Lai. Notre invité est déjà en ligne avec nous. Il s'agit de Franck Chantreau, qui est président de l'ONG Jack Animaux, Jeunes Animaux Confisqués du Katanga. Monsieur Franck Chantreau, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Chantreau, vous avez organisé en collaboration avec la coordination des différents sanctuaires un atelier sur la protection des grands singes. Quel était l'objectif poursuivi en organisant ces assises?
Eh bien, l'objectif, c'était de pouvoir réunir tous ces pays pour la première fois en République démocratique du Congo, pour une cause commune que nous défendons, qui est la protection des grands singes sur tout le continent africain. Et l'objet de l'atelier était de mettre en pratique différentes techniques, puisque tous ces personnes étaient des vétérinaires, puisqu'on a évidemment affaire à beaucoup de dégâts quand ces bébés arrivent, et donc c'était vraiment pour former les Congolais, puisque beaucoup de Congolais étaient conviés à cette conférence, pour les former en la matière.
18 pays du monde ont pris part à cet atelier. Vous avez choisi la ville de Lubumbashi, on peut savoir pourquoi?
Ben écoutez, pour la tenue de ces assises, il y avait aujourd'hui trois endroits qui étaient choisis. Donc c'était Kinshasa avec Lola Yabonobo, soit Luiro avec le sanctuaire au Kivu des chimpanzés, soit le Katanga avec Jack. Mm-hmm. Et donc, vu les événements malheureux qui se passent aujourd'hui dans la province, ils ont décidé de tenir cette conférence ici à Lubumbashi, au Katanga.
Oui, Monsieur Jack, vous avez conclu au cours de cet atelier que les grands singes sont en voie de disparition. Que comptez-vous faire pour mettre ces espèces à l'abri de ce fléau?
Ben écoutez, c'est un grave problème, pas seulement en RDC, mais dans toute l'Afrique. Mm-hmm. Donc nous, ce que nous avons commencé il y a 3 ans, c'est très encourageant. Il y avait un énorme trafic dans la ville de Lubumbashi. En moyenne, 3 bébés quittaient le pays chaque mois, par la Zambie, par l'Afrique du Sud, et rejoignaient le Moyen-Orient, la Russie et d'autres pays asiatiques. Et on peut dire aujourd'hui, conjointement avec les services du ministère de l'Environnement, nous avons arrêté ce trafic dans cette ville de Lubumbashi. Donc ça, c'est déjà une grande victoire. Évidemment, le problème reste très compliqué dans les forêts, dans les parcs nationaux. Nous avons le cas aujourd'hui au Kivu, le parc national des Virunga, qui a été complètement... les gardes ont dû abandonner le parc avec les rebelles, etc. Et donc aujourd'hui, les derniers gorilles de montagne congolais sont pris en otage. Et donc c'est pas évident de faire quelque chose.
Oui, Franck Santoro, une petite question de précision. Quand est-ce qu'on peut dire d'une bête que c'est une espèce protégée?
Eh bien écoutez, tout ça est régi, une fois de plus, chaque pays a ses lois, et en RDC, tous les animaux, la majorité des animaux sont repérés sur 3 annexes, annexe 1, 2 et 3. L'annexe 1, sont tous les animaux intégralement protégés. Il y a le gorille de montagne, le bonobo, le chimpanzé, le lamantin, l'hippotrague, le lion, et etc. Et donc, normalement, il est interdit de les chasser, de les manger, de les détenir. Et donc, comme on parlait, je vous ai suivi au départ de cette interview, il faut vulgariser les lois, c'est fondamental que la population comprenne que c'est interdit et qu'il y a plus à gagner en les protégeant qu'en les tuant.
Oui, mais après cet atelier, vous parlez là de la loi sur la protection des espèces protégées. Est-ce que quel constat avez-vous fait? Est-ce que les lois sont vulgarisées, sensibilisées? Les gens savent qu'il faut protéger ces espèces?
Ben oui et non. Le pays est tellement grand, il y a tellement de choses à faire. Il faut mener des actions concrètes sur le terrain. Je crois que c'est la seule solution possible. Nous ici, on a l'exemple depuis 3 ans. On peut dire qu'à Lubumbashi, on sait que pas seulement le chimpanzé, parce qu'on fait beaucoup d'éducation sur place avec les enfants, on leur met en tête que c'est protégé, le capi aussi, tous ces animaux. Et donc il faut être sur place pour le faire. Et malheureusement, les actions restent encore très timides en RDC à ce niveau-là. Et c'est la seule solution de vulgariser les lois. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Le pays est immense.
Oui, le pays est immense. Il y a du travail à faire dans ce domaine. Là, vous venez de nous dire que vous avez réuni plus les vétérinaires et les services d'environnement au cours de cet atelier. Vous ne pensez pas qu'il fallait associer, faire plusieurs fois des sensibilisations pour que les personnes, les gens comprennent cette importance?
Bien sûr, bien sûr, il y a eu plusieurs ateliers. D'ailleurs, l'atelier s'est créé au musée de Lubumbashi par une conférence. Il y avait 150 personnes qui étaient conviées à la manifestation, dont toutes les autorités, l'armée, la police, les instances judiciaires. Ça a été retransmis au niveau médiatique sur les télévisions, donc essayer de faire le plus de vagues possible. Et nous, sur place, je vous dis, aujourd'hui, au projet, nous avons une moyenne de 15 000 visiteurs par mois qui visitent le sanctuaire gratuitement, puisque l'accès est gratuit. Et 90% de ces enfants, de ces visiteurs, sont des enfants. Et donc, vous voyez l'impact. Les enfants retournent chez eux et le spa, il est très courant que une semaine après, que les enfants viennent avec leur famille. Et donc, c'est une boule de neige qui est en train de se faire. Et c'est magnifique. La conservation passe avant tout par l'éducation.
Oui, nous avons appris, vous venez de parler de votre sanctuaire où les primates sont momentanément gardés en attendant qu'ils soient retournés dans leur milieu d'origine. Mais quelles sont les conditions que vous posez avant de recevoir ces espèces?
Ben nous, c'est extrêmement strict. Si l'animal n'a pas été saisi, confisqué officiellement par les autorités, nous recevoir ces animaux, pour la simple raison que, bon, comme vous le savez, pour attraper un bébé, il faut tuer toute sa famille, donc en moyenne 10 individus sont massacrés, et donc il faut surtout pas encourager le trafic, surtout ne jamais acheter un chimpanzé, parce que c'est ce qui se passe dans notre pays, souvent, et c'est souvent malheureusement des expatriés qui font ça, les braconniers, les trafiquants arrivent à des maisons, vendent ces animaux. Et donc, les expatriés achètent ces animaux par pitié et ils ont commis une grave faute. Et même pour $50, ils encouragent le trafiquant, le braconnier, le chasseur à retourner dans la forêt, à recontinuer. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est la saisie officielle. Ne jamais donner un seul dollar. Et ici, je veux dire, nous, avec la coordination provinciale de l'environnement, ça marche à merveille. Nous avons 19 bébés qui ont été confisqués. Et qui viennent maintenant d'un peu partout. Là, on vient de recevoir un petit bébé mardi, qui est arrivé de Goma. Donc, vous voyez que l'action de Jack au Katanga a largement dépassé. Aujourd'hui, c'est national. Et au Kivu, bon, évidemment, beaucoup d'humains souffrent, mais les animaux, ils n'ont rien demandé à personne. C'est une hécatombe ce qui se passe là-bas.
Oui, Franck Santero, Jack fait du bon travail, mais ce qui est dommage, c'est que le trafic illicite s'est fait au sud de tout le monde, puisque ces bêtes, les espèces protégées, viennent par avion, par train ou par bateau, on l'a suivi dans le reportage.
Ah bien sûr, c'est ça le... Bon, avant, on pouvait excuser les autorités... de fermer les yeux sur ce problème, notamment avoir des bébés chimpanzés dans des stations essence ou en ville ici. Mais il faut bien comprendre que quand on fait un bébé grand singe, il faut s'en occuper. Il faut un endroit où le mettre. Et donc les autorités, pendant tout un temps, n'ont pas confisqué ces animaux puisqu'ils ne savaient pas quoi en faire. Même si c'est illégal, que faire d'un bébé chimpanzé? Un chimpanzé vit 60 ans. Il a besoin d'un amour, il a perdu sa mère, donc c'est pas évident. Donc aujourd'hui, je reprends l'exemple de ce qui se passe dans notre ville, les autorités savent que c'est un moyen de faire aujourd'hui le travail correctement, puisque nous sommes là pour les aider, pour les épauler, à s'occuper de ces bébés une fois confisqués.
Oui, vous avez échangé avec 18 responsables de 18 pays membres du monde qui ont assisté à ces assises, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment ça se passe chez eux?
Ben, il y a de tout. Il y a des gens qui font 25 ans dans ce travail. Nous, c'est 3 ans. Ça porte ses fruits, mais évidemment, le problème reste entier puisque les gens sont très convoités par stupidité parce que les gens ont envie d'avoir un bébé grand singe dans leur salon. Les animaux grandissent et ils deviennent très dangereux et généralement, on les balance comme à la poubelle, comme ça. Et donc, tous mes confrères en Afrique ont exactement le même problème. Ça continue de plus belle, surtout à cause du... Bon, ici au Katanga, on n'a pas tellement ce problème, mais le problème de la consommation de la viande de brousse fait rage dans d'autres pays, dans d'autres régions de la RDC, en Centrafrique, au Gabon, etc. Et donc, les gens mangent encore les grands singes. Et alors, les bébés qui survivent à ça, comme ils ont un poids très minime, ils savent qu'ils n'ont aucune valeur monétaire au niveau achat viande s'ils étaient morts. Mmh. Donc on garde ces bébés en vie puisqu'il y a une demande d'animaux de compagnie. Et donc c'est très très compliqué.
Oui, mais au niveau de Katanga, on sait que beaucoup de personnes consomment de la viande boucanée, comme vous venez de le dire. Donc pour mettre fin à ce trafic illicite ou pour la protection de ces espèces protégées, vous allez mettre fin aussi à la vente de ces viandes boucanées?
Bien sûr, on fait beaucoup de sensibilisation sur place et je suis conscient que des populations nourrissent la forêt pendant des milliers d'années. Mais aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Il est interdit de consommer de la viande d'espèces protégées. Et dans le cas particulier des grands singes, vous savez tout ce qui s'est passé en début d'année à Mbujimaï, et puis il y a plusieurs années à Kikwit, etc. Il y a le virus Ebola qui est là derrière, il ne faut pas l'oublier, ça vous tue en deux jours. Et tout ça est lié à la consommation de viande de grands singes. Et donc, il faut faire très attention, ça peut créer des épidémies très importantes.
Oui, mais comment vous êtes convenu avec les autres membres des 18 pays? Vous avez mis un mécanisme sur pied pour le suivi de tout ce que vous avez fait?
Oui, bien sûr. Donc, cet organisme qui s'appelle le PASA, c'est un organisme qui veut dire le Pan-African Sanctuary Alliance, qui aujourd'hui aide 18 sanctuaires dans le monde. Et donc, aujourd'hui, ils ont demandé à Jack de les rejoindre, donc de devenir officiellement membre. Et donc, évidemment, ça va nous apporter énormément de choses, de soutien, et ça va nous permettre d'aller de l'avant, parce que faire ce qu'on fait tout seul, ça a été très très difficile, comme vous l'imaginez.
Oui, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre ONG?
Les difficultés sont de plusieurs ordres. Il y a des difficultés financières, évidemment. Mmh. Aujourd'hui, on a 19 bébés, énormément d'attention. Il faut les nourrir, il faut les entourer, il faut construire des infrastructures. C'est des animaux qui ont 10 fois la force d'un homme adulte. Et les difficultés, aujourd'hui on a passé ce cap, mais les difficultés au départ ont été très compliquées, puisque la majorité des gens qui détiennent ces animaux comme on les appelle, des intouchables, et ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, le gouvernement est avec nous, localement et au niveau national. Aujourd'hui, nous avons deux fois la visite officielle du chef de l'État au sanctuaire. Mmh. Et donc nous avons un soutien moral et de la part du gouvernement provincial du Katanga qui d'aime.
En dehors du gouvernement, vous avez d'autres partenaires internationaux qui vous assistent?
Oui, on a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'aide localement, des gens qui nous aident, qui nous donnent un peu de pain, un peu de lait, un peu de légumes, des choses comme ça. Et au niveau international, on a une association française qui s'appelle Little Jack, qui a été créée pour nous venir en aide. Et ainsi de suite, je veux dire, aujourd'hui, Jack est connu dans le monde entier.
Oui, est-ce que là, vous avez un message à lancer aux Congolais en rapport avec la protection des espèces protégées? On sait que les singes sont énormément consommés, même ici à Kinshasa.
Bien sûr. Le message que je voudrais lancer, c'est de demander à tous les Congolais qui m'écoutent de protéger leur patrimoine. Moi, je suis français. Je le fais par passion, mais ces animaux vous appartiennent. Ils appartiennent à l'État congolais. Et il y a plus à gagner à les protéger qu'à les manger ou les revendre. Il y a des pays comme le Kenya ou le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui, c'est 25 000 dollars par jour d'entrée pour les visites des gorilles de montagne. Mm-hmm. Et donc, il y a une autre façon de gagner de l'argent. Et il faut le faire pour les générations futures, pour nos enfants, pour qu'un jour ils puissent voir les merveilles que la nature nous offre. Et donc, c'est une grande responsabilité que nous avons. Et il faudrait qu'on y arrive.
On va y arriver sûrement avec beaucoup de sensibilisation. Franck Chantreau, une dernière question. Est-ce qu'une personne vivant dans un quartier résidentiel a le droit d'avoir comme animal domestique un singe?
Non, c'est interdit. Évidemment, il y a beaucoup d'espèces de singes, mais en tout cas, pour les grands singes, c'est interdit par la loi, non seulement au Congo, mais au niveau international. Il est interdit de détenir un grand singe et plusieurs espèces de primates, de petits singes.
Pourtant, c'est le cas, hein, nous les vivons même ici à Kinshasa. Hein.
Oui, je sais bien. Il est, une fois de plus, il faut qu'on mène des actions là-bas. Il est peut-être question que nous commencions quelque chose aussi à la capitale pour renforcer les lois là-bas. Et donc immédiatement, si nous commençons ces actions, nous aurons à saisir ces animaux, à leur offrir un nouvel avenir. Mais c'est comme je vous ai dit, s'il n'y a pas des endroits, des centres qui peuvent héberger ces animaux, les autorités ne vont pas passer à l'acte puisqu'ils ne savent pas quoi en faire. Et dans beaucoup de pays, comme c'est le cas en Égypte, il n'y a aucun sanctuaire pour grands singes. Qu'est-ce qui se passe quand on saisit ces animaux? Eh bien, ils sont euthanasiés.
Franck Chantreau, nous allons nous arrêter là avec vous. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous rappelons que vous êtes le président de l'ONG Jacques Jeunes Animaux Confisqués du Katanga. À la prochaine. Hein.
Je vous remercie énormément. Merci pour eux.